Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Manuel Valls quitte la politique française pour se présenter à la mairie de Barcelone. C'est officiel depuis ce soir. Alors, quelles sont les chances de l'ancien Premier ministre français dans la capitale catalane? Nous poserons la question à notre invité, l'historien Benoît Pellistrandi. La France n'accueillera pas l'Aquarius et ses 58 migrants à Marseille. Emmanuel Macron refuse de créer un précédent, mais il a négocié un accord de répartition des migrants avec trois autres pays européens. Les explications de Marie-Pierre Véraud dans ce journal. Donald Trump appelle le monde à isoler le régime iranien. Le président américain s'est montré particulièrement menaçant envers Téhéran à la tribune des Nations Unies. Le reportage à New York de Grégory Phillips. Elle s'appelait Constance Quéniaud. Elle était danseuse à l'Opéra de Paris. Et c'est elle qui a servi de modèle au célèbre tableau de Courbet, l'origine du monde. Un secret dévoilé par l'écrivain Claude Chopp. Nous verrons cela avec Bénédicte Robin. Il y aura donc un Français candidat à la mairie de Barcelone le 26 mai prochain. Manuel Valls a officiellement annoncé sa candidature aujourd'hui depuis le Centre de Culture Contemporaine de la capitale catalane. Et c'est en catalan que l'ancien Premier ministre français a lancé son premier combat électoral en Espagne. On retrouve à Barcelone notre envoyé spécial Julie-Marie Lecomte.
Il est un peu plus de 19h15 quand Manuel Valls annonce sa décision devant une petite centaine de soutiens, chefs d'entreprise, avocats, architectes, bref, la bonne société barcelonaise. Derrière lui, il y a une photographie de ce dallage typique des rues de la ville, un dallage au motif floral. Le carton sur le pupitre affiche le cap Valls Barcelone 2019. Je vous ai réunis pour vous dire qu'après avoir réfléchi, j'ai pris ma décision. Je veux être le prochain maire de Barcelone, annonce Manuel Valls. L'ancien premier ministre français déjà accusé d'être un parachuté, de venir se recycler en Espagne, a choisi de s'exprimer en catalan. C'est aussi en catalan qu'il annonce d'abord qu'il démissionnera dès la semaine prochaine de ses mandats de l'autre côté des Pyrénées. Il passe alors aux Français pour s'expliquer. Il doit la clarté à ses électeurs d'Evry. Pas d'argutie possible quand on a porté, dit-il, la loi sur le non-cumul des mandats. Manuel Valls fait un choix de vie, qu'il gagne ou qu'il perde. Il le promet, il restera ici.
Et la démission de Manuel Valls de son mandat de député de l'Essonne va entraîner l'organisation d'une législative partielle dans la première circonscription du département. Invité de ce journal, l'historien Benoît Pellistrandi, spécialiste de l'Espagne contemporaine. Bonsoir.
Bonsoir.
Benoît Pellistrandi, certains reprochent à Manuel Valls d'être un parachuté venu de France. La maire actuelle de Barcelone, Ada Colau, dit qu'il ne connaît rien de la ville. Est-ce que cette accusation est fondée selon vous ?
Et c'est un argument qui est fort, parce qu'effectivement, Manuel Valls a 40 ans de vie en Espagne, de vie en France, pardon, 30 ans de vie politique, et des responsabilités très considérables, on le sait, au Parti Socialiste, puis ensuite au gouvernement. Et donc, ce n'est pas quelqu'un qui connaît la Barcelone quotidienne, du jour à jour. Mais Manuel Valls vient d'une grande famille catalane, il a 40 cousins qui vivent encore en Catalogne, et c'est important parce que cette dimension familiale, on va la voir pendant la campagne, et c'est ce qui explique la parfaite intégration de Manuel Valls dans ce monde barcelonais et catalan particulièrement complexe. Donc Manuel Valls a plein d'arguments aussi à faire valoir pour dire qu'il est catalan et qu'il retourne à ses racines catalanes.
Alors il est catalan, il retourne à ses racines, mais il est farouchement hostile à l'indépendance de la Catalogne.
Tout à fait, et c'est d'ailleurs la bête noire des indépendantistes. On a déjà entendu aujourd'hui, avant même l'annonce de la candidature, des formes de disqualification, j'allais presque dire ethnique. Certains ont dit que sa candidature n'avait aucune logique politique ni géographique, ce qui était une façon de mettre en cause son identité catalane. Oui, Manuel Valls, c'est la bête noire des indépendantistes, parce que, alors que les indépendantistes ont tenté et ont échoué à internationaliser la question de l'indépendance de la Catalogne, le fait que Manuel Valls, un ancien Premier ministre français, et quelqu'un qui pèse dans le débat politique européen, soit l'étendard visible de ceux qui veulent que la crise catalane trouve une solution, et une solution à l'intérieur de l'ordre constitutionnel actuellement en vigueur en Espagne, eh bien, le voit vraiment comme un vrai danger qui peut déplacer les lignes à l'intérieur de la politique catalane.
Alors, Manuel Valls est un partisan de l'unité espagnole, mais lui-même, en fait, il n'a pas la nationalité espagnole.
Non, non, il a été naturalisé en 1982, c'est-à-dire au moment où l'Espagne n'appartenait pas à la communauté économique européenne, l'ancêtre de l'Union, et donc les choses étaient compliquées. Il a donc la possibilité de voter et d'être candidat à Barcelone au titre justement de cette citoyenneté européenne que le traité de Maastricht avait instauré. Et en cela, Manuel Valls aussi est sans aucun doute un innovateur, puisque il n'y a pas de précédent d'un ancien chef de gouvernement ou d'un ancien très haut responsable qui soit candidat à une autre fonction électorale ailleurs en Europe.
Benoît Pellistrandi, quels seront les principaux adversaires de Manuel Valls pour la mairie de Barcelone? Alors on pense à la maire actuelle, Ada Colau. Il y a aussi une candidature indépendantiste, je crois.
Oui, il y aura une candidature indépendantiste. D'ailleurs, la candidature de Manuel Valls force les indépendantistes à changer de scénario et de candidat. Et ils vont sans aucun doute désigner Ernest Maragall, qui est l'un des frères d'un ancien maire de Barcelone, Pasqual Maragall, qui a été l'emblématique maire de la transformation de Barcelone en ville olympique en 1992. Pasqual Maragall est socialiste. Son frère Ernest Maragall était socialiste et est devenu farouchement indépendantiste. Le handicap de Ernest Maragall, c'est sans doute son âge, 76 ans, et c'est sans doute aussi le fait qu'il représente une forme d'oligarchie catalane. Du coup, la mairesse sortante, Ada Colau, a pour elle, d'avoir réussi à tenir un mandat complet. C'était pas évident parce qu'elle ne disposait que de 11 conseillers municipaux sur un conseil municipal qui en compte 41. Et elle a réussi à être un peu la tête de pont de la gauche radicale en Espagne en faisant de la municipalité de Barcelone un instrument de lutte contre certaines tendances de la globalisation. Je pense à ce tourisme de masse qui d'ailleurs défigure la ville de Barcelone, à la lutte contre la déformation du marché des locations qui deviennent des locations touristiques et non plus des locations pour les habitants de Barcelone. Donc tout cela, Ada Colau peut le faire valoir. Et qui plus est, elle est d'une très grande ambiguïté par rapport à la question souverainiste et indépendantiste. Elle est indépendantiste avec les indépendantistes, non-indépendantiste avec les non-indépendantistes. Et cette ambiguïté la place en position relativement favorable.
Très rapidement, Benoît Pellistrandi, comment ça se passe l'élection municipale à Barcelone? C'est un tour, deux tours, comment ça se passe?
C'est une élection à un tour, à la proportionnelle, il faut passer la barre des 5%, et ensuite donc les 41 sièges de conseillers municipaux sont distribués à la proportionnelle, et aux dernières élections, Ada Colau l'avait emporté avec seulement 25% des voix. Son compétiteur immédiat qui était Convergence et Union avec Xavier Trias, représentant de la bourgeoisie catalane, avait un siège de moins. On peut imaginer que Manuel Valls cherche à virer en tête, et s'il était en tête donc au soir de l'élection, il aurait pour lui la légitimité des urnes, car il y a une autre tradition en Espagne, c'est qu'en général la liste qui est arrivée en tête voit son candidat élu maire avec l'abstention des oppositions pour respecter le sens du scrutin.
Benoît Pellistrandi, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. L'Aquarius n'ira pas à Marseille pour mettre à l'abri les 58 migrants recueillis au large de la Libye. Emmanuel Macron n'a pas voulu accéder à la demande des deux ONG qui affrètent le navire, SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières. Une solution européenne a finalement été trouvée, on va y revenir dans un instant. Mais écoutons tout d'abord le président français justifier son refus d'accueillir l'Aquarius et ses migrants. C'était à New York où le président français assiste en ce moment à l'Assemblée Générale de l'ONU.
L'humanisme, ça n'est pas le bon sentiment. L'humanisme, c'est l'exigence qui va avec l'homme et la dignité de la personne. C'est différent. Et donc je peux, j'en ai conscience, parfois donner le sentiment de ne pas céder à des bons sentiments faciles parce que je pense qu'ils sont sans lendemain. Et je pense que si je suivais cette voie, elle ferait basculer le pays vers les extrêmes et elle ne réglerait pas durablement la situation. Donc moi je suis pour régler durablement la situation par une politique de travail avec les pays d'origine, avec les pays de transit pour lutter contre les trafiquants parce que vous avez des milliers de gens qui aujourd'hui font fortune et qui font que quelqu'un qui vient du Sénégal, du Cameroun, du Maroc ou d'Algérie, se retrouve dans un bateau au large de la Libye. Il n'est pas venu tout seul. C'est ces trafiquants, nos ennemis. Et donc moi, je veux accroître la lutte contre ces derniers, mieux protéger nos frontières, mais le faire de manière humaine. C'est ce qu'on fait avec une solution européenne concertée. On prendra notre part de réfugiés et on accordera l'asile à qui est en situation précisément de l'avoir. Et on raccompagnera vers le pays d'origine des gens qui ne relèvent pas de l'asile.
Alors justement, cette solution négociée par Paris prévoit que les migrants de l'Aquarius transiteront par l'île de Malte. Les explications de Marie-Pierre Véraud.
Une solution européenne a donc été trouvée et les principes mis en avant par la France sont sauf débarquement dans le port sûr le plus proche, répartition solidaire des rescapés entre différents pays de l'Union. Les 58 migrants secourus par l'Aquarius seront conduits à Malte, puis accueillis par la France pour 18 d'entre eux. L'Allemagne et l'Espagne en prendront 15 chacune et le Portugal 10. Mais l'odyssée de l'Aquarius ne s'arrête pas pour autant. Menacé de perdre son pavillon panaméen dès qu'il accostera, le navire de SOS Méditerranée transbordera ses passagers sur un bateau maltais depuis les eaux internationales. Il gagnera ensuite Marseille, son port d'attache. Matignon le lui permet désormais. C'est de là que l'armateur du navire entend travailler à retrouver un pavillon. Il a demandé hier un pavillon européen afin de repartir au plus vite sauver des vies en Méditerranée.
Marie-Pierre Vérot. À la tribune de l'Assemblée Générale de l'ONU, Emmanuel Macron s'est évertué aujourd'hui à défendre le multilatéralisme. La France veut parler avec tout le monde. Elle refuse notamment de couper les ponts avec l'Iran. Un discours à l'opposé de celui de Donald Trump. Le président américain se targue, lui, de défendre d'abord les intérêts de son pays. Et l'Iran menacerait ses intérêts. Donald Trump qui n'avait pas vraiment le triomphe modeste à la tribune des Nations Unies. Grégory Phillips.
Le discours de Donald Trump aura duré 35 minutes et dès ses premiers mots, le président américain vante les résultats extraordinaires de son administration, notamment sur le plan économique, provoquant même quelques rires dans la salle de la part des autres chefs d'État et de gouvernement.
En moins de deux ans, notre administration a accompli plus que n'importe quelle administration dans l'histoire de notre pays. Je ne m'attendais pas à ce genre de réaction, mais ça me va.
Puis, comme attendu, Donald Trump aborde la question du nucléaire iranien. Une dizaine de minutes de son discours sont consacrées à l'Iran, qualifié de dictature corrompue. Et le président des États-Unis appelle les autres pays à isoler encore un peu plus le régime des ayatollahs.
On ne peut pas autoriser un pays qui soutient le terrorisme à posséder l'une des armes les plus dangereuses de la planète. Nous demandons aux autres nations d'isoler le régime iranien.
Le discours du président américain était un peu plus polissé, plus apaisé que l'an dernier. L'an passé, Trump avait rebaptisé le dirigeant nord-coréen Rocketman et promis la destruction du régime de Pyongyang. Devant les Nations Unies, cette fois, Trump a fait du Trump, mais de manière un peu plus diplomatique.
Grégory Phillips depuis New York. C'était l'un des plus vieux mystères de la peinture française. On connaît désormais le visage et le nom du modèle de l'origine du monde, le célèbre tableau de Gustave Courbet qui montre le corps d'une femme nue. Elle s'appelait Constance Kenny. Elle était danseuse à l'Opéra de Paris et son anonymat aura donc été préservé pendant 152 ans. C'est Claude Chopp, écrivain spécialiste de Dumas, père et fils, qui a découvert son identité un peu par hasard. Les explications de Bénédicte Robin.
C'est le beau hasard des découvertes. Sans chercher, vous trouvez. C'est ce qui est arrivé à Claude Chopp en train d'annoter une lettre de Dumas fils à Georges Sand. Le voilà qui tombe sur un passage dans lequel l'auteur vitupère très fort contre le peintre. Nous sommes en 1871. Courbet est engagé pour la commune. Dumas fils y est hostile et se lâche contre l'artiste. Et ce tableau, ce nu, tenu secret, connu de quelques-uns seulement, dont Dumas fils, qui lui-même amateur d'art, côtoie le commanditaire et propriétaire de l'œuvre, Khalil Bey, diplomate turc et collectionneur, qui a pour maîtresse une certaine Constance Kenyo, dont le nom apparaît justement dans cette verve mécontente et au détour d'une phrase intrigante où s'est glissée une coquille.
Khalil Bey visitait de temps en temps l'interview de mademoiselle Kenyo. Je me suis dit, mais ça ne veut rien dire. Et c'est à ce moment-là que je suis retourné au texte original et donc Khalil Bey visitait de temps en temps l'intérieur de mademoiselle Kenyo. On comprend très bien ce que cela veut dire. La découverte était faite, il restait le travail.
Travaille sur cette Constance Kenyo, ancienne danseuse de l'Opéra de Paris, devenue porte-veine, à savoir porte-bonheur du fameux Khalil Bey, joueur invétéré. Elle s'ouvre les portes du Paris mondain et influent. On retrouvera après sa mort, parmi ses biens, un tableau de Gustave Courbet.
Et retrouvez sur franceculture.fr l'entretien complet que Claude Chopp a accordé à Bénédicte Robin. Le temps demain, le soleil continuera à s'imposer sur l'ensemble du pays. Seules quelques brumes matinales sur l'extrême nord et des nuages bas sur le Roussillon viendront perturber le ciel bleu. Les températures minimales seront fraîches au nord de 1 à 6 degrés. Au sud, elles iront de 6 à 13 degrés jusqu'à 19 près de la Méditerranée. Les maximales sont en légère hausse, 18 à 23 au nord de la Loire, 24 à 29 au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Nathalie Lopez.